Donc bonjour, nous sommes samedi 12 juillet à Foix sur le festival Résistance et en direct de Canal Sud. Bienvenue au Café Ciné. Donc ce matin, nous sommes en présence des réalisateurs du film Terre Latanou qui a été projeté hier soir pendant le festival. Cécile Labessière et Jean-Marie Pernel qui ont réalisé ce documentaire qui se déroule à La Réunion. Sur un bon point, une expérience collective dont ils vont nous parler, peut-être nous faire un petit résumé avant d'aller vers des questions plus précises. Je vous passe la parole.
Sur ce rond-point, il y a une expérience de souveraineté alimentaire, parce que la souveraineté alimentaire, c'est aussi une voie pour la souveraineté, pour la lutte anticoloniale, la lutte décoloniale, pour la dignité du peuple réunionnais, et aussi pour la reprise de la terre. Parce que la question de la terre, elle est centrale, et on l'a vu quasiment dans tous les films concernant écologie émancipatrice et concernant aussi la section colonie. C'est vraiment, et puis même ici, avec le film sur la vallée de l'Arak, il y a vraiment une question de la terre, et tout se joue en fait dans nos rapports, j'ai l'impression, hein, dans nos rapports de domination et dans les inégalités sociales, sur cette question de la terre.
Et peut-être pour recontextualiser le film, donc c'est un collectif qui s'est installé sur rond-point suite au mouvement des Gilets jaunes, qui a aussi été assez important fin 2018 à La Réunion. Et le mouvement s'est arrêté fin 2018 à La Réunion. Et les gens qui occupaient ce rond-point, c'est un rond-point qui est dans le sud de l'île, dans la ville du Tampon. Et c'est un rond-point qui est assez grand. C'est un rond-point qui fait 5000 m², qui est arboré. Et ils occupaient ce rond-point pendant le mouvement des Gilets jaunes, et au moment de l'arrêt des Gilets jaunes, il y a un groupe de personnes qui étaient très frustrées, donc ils ont décidé de s'installer, de construire des petites cabanes en palettes, et puis de s'installer sans savoir où ça allait les mener. Et ils sont toujours sur le rond-point, 5 ans après. Et nous, on est arrivé en 2020, juste après le premier confinement du Covid. Ils avaient organisé des réunions de convergence de lutte sur le rond-point. Nous, on a participé à l'une de ces convergences et ça nous a permis de rencontrer ce collectif, de rencontrer le rond-point aussi, parce que c'est vraiment un lieu complètement improbable. Et à partir de là, on leur a proposé, nous on a eu vraiment le désir de filmer ce qui se passait sur ce rond-point. À la fois le rond-point, le lieu, parce que c'est un lieu assez poétique, assez magique, assez inattendu, et en même temps, il s'y passe tellement de choses. Filmer aussi l'expérience de ce collectif, leurs revendications, et puis leur vie au quotidien, et voilà. Donc on est resté, on a commencé à tourner fin août, début septembre 2021, et puis on a tourné pendant 3 ans. 2020, pardon, et on a tourné pendant 3 ans. Et voilà, donc... Voilà. Après, si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre.
Alors, on est dans un café ciné, donc on va peut-être parler d'un peu plus de comment vous avez construit ce film, et particulièrement comment on gagne la confiance des Azalées, hein, comment on présente son film, quelle réticence vous avez eu au début, comment vous avez fait pour gagner leur confiance et tourner pendant plusieurs mois auprès d'eux.
La réponse va être longue. Il y a deux questions. Je vais répondre à la question du comment on a fait le film. Donc le film, il a été tourné en immersion pendant 3 ans. On s'est installé régulièrement sur le rond-point. Donc on a vécu avec les gens du QG Zazalé. En participant aux tâches collectives, enfin on était avec eux, on sortait la caméra quand on avait des trucs à filmer, donc on leur disait bah voilà, aujourd'hui on aimerait bien filmer tel et tel aspect du rond-point. Et puis on rentrait la caméra et on se mettait à préparer à manger, on avait des temps après le repas, de discussion, de jeux. Enfin, voilà, on participait à la vie collective, quotidienne. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 200 heures de rush, quoi, en gros. 200 heures de rush, ouais, oulala. Et quand on a commencé le montage, Daniela De Félix, qui a vraiment participé à accoucher ce film avec nous, donc la monteuse Daniela De Félix nous a dit, bah, venez avec une sélection de 80 heures à peu près. Voilà, donc on est passé dans un premier temps de 250 heures à 80 heures. Et on a fait tout un travail de transcription, c'est-à-dire que sur des cahiers, hein, le truc bête, on a dérushé. Et sur des cahiers, on a écrit ce qui se disait, ce qui était le moment fort de la séquence, avec des post-it. Enfin voilà, on est arrivé au montage avec trois cahiers, des post-it de couleurs, enfin une organisation comme ça. Et le film, il s'est vraiment écrit au montage aussi. Nous, on l'avait écrit déjà, même si on était dans cette urgence de filmer, on avait quand même écrit ce qu'on voulait faire, notre intention. Ensuite, on a filmé, donc il nous est arrivé des choses au tournage qu'on n'avait pas anticipé, c'est le réel. Et après, au montage, on a vraiment écrit ce film avec toutes ces questions qu'on s'est posées, de loyauté par rapport à eux, de notre légitimité aussi, de montrer, d'être sensible à une parité femme-homme dans les prises de parole ou dans les images du quotidien, d'être sensible à une prise à un équilibre oreilles créoles. Voilà, tout ça c'était au montage. Et après on a fait des allers-retours avec eux, on leur a montré le travail en cours. Alors c'était un peu, ils n'étaient pas toujours d'accord. Ils n'attendaient pas ça, parce qu'on a un petit peu de mal à expliquer que nous, on venait avec notre regard d'auteur, d'autrice, et qu'on n'allait pas faire un film catalogue sur les azalées, la distribution alimentaire, les azalées, l'accueil social, les azalées, les fêtes du don, voilà, c'était pas notre truc. Et donc ça a été parfois chaud, hein, les discussions. Et il fallait maintenir aussi nos choix. Et puis le film s'est fait, hein, cas. Voilà, le résultat, vous l'avez vu.
Alors peut-être aussi, quand même, à l'écriture, quand on les a rencontrés, donc ils vivaient sur ce rond-point depuis plus d'un an, hein, et on voyait bien, on le voit dans le film, mais vous imaginez sur un rond-point, il y a environ 50 000 voitures qui passent chaque jour autour de ce rond-point, c'est assez bruyant, c'est en plein centre-ville. Et donc, ils avaient comme projet, quand on les a rencontrés les premières fois, de chercher un terrain pour porter cette expérience sur ce rond-point, la porter sur un terrain beaucoup plus grand, et donc convertir cette expérience sur un terrain de 5000 m² sur un terrain beaucoup plus grand, et là, viser vraiment l'autonomie alimentaire, viser vraiment une démocratie beaucoup plus élargie, où sur ce terrain, il pourrait y avoir des activités, des actions beaucoup plus amples. Et en plus, ils avaient cette idée qui nous avait transmise d'archipel. C'est-à-dire, on est sur une île, à La Réunion, et eux, ils se disaient, effectivement, on est dans une île qui est très touchée par la société de consommation. Il y a énormément de centres commerciaux, il y a énormément d'importations de la nourriture, etc. L'idée, c'est pas de transformer La Réunion dans un premier temps en un rond-point, en un éco-village, hein. C'est d'y aller progressivement et de mettre en commun, de créer des archipels, des liens entre ces lieux qui expérimentent des manières de vivre différentes de ce qui se passe d'une manière générale à La Réunion, et donc de mettre en lien ces lieux. Et nous, quand ils nous ont présenté cette idée, cette ambition, on s'est dit, c'est ça qu'on va venir filmer de notre angle de poursuivre le fil conducteur du tournage. Ça sera les suivre dans ce passage d'une expérience sur un rond-point vers un terrain beaucoup plus grand et une expérience plus ambitieuse. Et donc, on a suivi cet angle-là. Mais seulement, c'est au bout de 3 ans, ils n'avaient toujours pas trouvé ce terrain. Enfin, ils avaient trouvé plusieurs terrains, mais ils n'avaient pas fait le passage vers ce terrain pour différentes raisons, dont on pourra en reparler si vous voulez. Et donc on a dû un peu réorienter la manière dont on voulait présenter le rond-point. Et ça, c'est, comme l'a dit Cécile, ça s'est beaucoup fait au montage.
Donc là, vous parlez un petit peu d'organisation du tournage, organisation du montage. Mais donc vous aviez présenté un projet avant de sortir la caméra et les micros. Comment vous avez justement organisé ce tournage? Est-ce que vous avez dû prendre des gens en mixité ou non, par exemple, pour développer certains sujets? Comment ça a été perçu par les gens qui occupaient le rond-point?
On a d'abord commencé à filmer, hein, honnêtement. On a d'abord sorti la caméra. Et après, on a fait une résidence d'écriture documentaire qui s'appelle Doc Oui, comme Doc Océan Indien. Et c'est là qu'on a écrit le dossier artistique pour demander une aide à l'écriture. Comment filmer à deux? Donc on a écrit le film et puis après on a filmé avec cette contrainte du réel et de l'écriture. Mais ça nous a permis de bien affiner nos objectifs, ce qu'on voulait faire, notre intention, même si elle a évolué par rapport à la quête du terrain. Et comme on a filmé à deux, on s'est dit peut-être que notre regard, il est trop... il manque un peu de... il est trop centré sur son sujet. Et peut-être qu'on aurait besoin d'un autre point de vue, d'un autre regard. Donc on a fait appel à deux reprises à deux autres cadreurs, cadreuses qui sont venus faire des images. Et on leur avait demandé, ben nous on aimerait bien par exemple que toi tu filmes cette poésie du rond-point, ces petits espaces où il y a plein de fantaisie dans la décoration, cette sensibilité-là à la nature, il y a beaucoup d'animaux sur le rond-point. Est-ce que tu peux te charger de faire ces images avec ta sensibilité à toi? Et donc ces images, on les voit dans le film. Ça répond à la question?
Oui, mais après peut-être...
Oui, peut-être. Ce qui était compliqué, c'est un lieu militant qui a créé beaucoup de débats à La Réunion. C'est la présence sur ce rond-point et ce collectif est très reconnue à La Réunion. Mais alors, il y a les pour et les contre. Il y a les gens qui disent mais il faut qu'ils quittent ce rond-point, ça va pas, ils occupent illégalement un lieu public. En plus, ils utilisent l'électricité qu'il y avait et l'eau sur ce rond-point. Donc ça crée beaucoup des contestations. Puis le discours qu'ils défendent, on n'est pas d'accord avec eux. Donc il y avait vraiment débat dans la société réunionnaise de leur présence. Et eux, quand on est arrivé, bon, déjà on est des oreilles vis-à-vis d'eux. Bah, ils ont une inquiétude sur notre regard qu'on peut porter sur leur lutte. Et puis c'est des décisions qui sont très horizontales. Ils organisent ces fameux rond-causés, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Des ronds-causés, c'est des assemblées, des sortes d'AG, mais à la Réunion, on appelle ça des ronds-causés. On se met en rond et tout le monde a le même niveau de parole, il n'y a pas de gens qui décident, qui est le chef ou quoi que ce soit. Et donc, il fallait absolument que nous, en tant que cinéastes, on soit accepté par le ronds-causé, on va dire, par le collectif. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous disait « Ok, vous pouvez venir filmer, il n'y a pas de souci ». Donc on est venu plusieurs fois présenter notre projet de film à ces ronds-causés. On est vraiment venu plusieurs fois. Ça a créé des débats. C'est le principe de la démocratie horizontale. Et puis il y a eu un certain temps avant qu'ils comprennent ce qu'on voulait faire. Et d'abord qu'ils acceptent donc qu'on tourne. Et puis après qu'ils aient accepté qu'on fasse ce film, qu'on soit présent, qu'on les filme. Il a fallu aussi... nous, on ne voulait vraiment pas faire un film de propagande, on voulait faire un film engagé, mais on voulait faire un film d'auteur aussi, on voulait faire notre film quand même. Et donc, la grande difficulté avec ce genre de collectif, c'est qu'ils ont, il y a des avis très différents, et nous, quand on est en train de réaliser, de tourner, de monter, il y a des choix qui, des fois, basculent une manière de présenter le film, parce qu'il y a des choses qui ressortent que... En tant que cinéaste, on voit et on a des contraintes de cinéma. Et d'un seul coup, on est face à une assemblée qui nous dit « Ah non, non, mais ça, faut pas le mettre. Telle image, telle séquence, faut pas le mettre. Parce que telle personne veut pas être à l'image ou que telle personne, ça va poser un problème avec sa famille ou machin, d'être à l'image. » Ou là, on trouve que cette phrase qui est dite, c'est une oreille qui l'a dit. Nous, on veut que ça soit une créole qui l'a dit. Je vous transmets des choses qu'on a eues pendant les échanges. Et là, d'un seul coup, vous êtes dans une expérience de cinéaste où vous avez des contraintes qui sont très particulières. parce que nous, habituellement, on n'a pas ce genre de contraintes. On y réfléchit, bien sûr, on écoute nos protagonistes, on respecte leur point de vue. Mais là, des fois, quand on leur a présenté, notamment la première fois, le premier état du film, la première version, on a eu des retours complètement inattendus, du genre « Mais comment ça se fait que moi, je ne suis pas dans le film ?» ou « Comment ça se fait que lui, il y est plus que moi ?» Bon, on a eu ce genre de choses. Et puis aussi, « Pourquoi vous n'avez pas parlé de telle chose ?» Comme disait Cécile tout à l'heure, il y avait une sorte d'attente de catalogue, qu'on soit très exhaustif sur les actions qu'il menait. Alors que nous, on a voulu plus montrer une forme de l'esprit du rond-point. Et voilà. Donc voilà, dans la fabrication, avec eux, on a eu cette expérience. Moi, c'était la première fois que j'avais une expérience cinématographique où les protagonistes sont aussi présents dans la construction du film, au-delà du tournage.
C'était un peu ce qu'on avait présenté aussi au moment où on est allé les voir en leur expliquant notre projet de film. C'était aussi la condition de leur donner beaucoup de place dans la construction du film.
Et suite à la réalisation du film, est-ce qu'il y a eu une diffusion particulière sur l'île ? Est-ce qu'il a été au-delà, je veux dire, des personnes du rond-point ? Est-ce qu'ils ont participé aussi à diffuser le film, ou est-ce que ça a été un travail que vous avez fait juste vous deux ? Comment le film a vécu, hein, sur l'île et puis après ailleurs ?
Le film, on a fait deux films en fait. On a fait un 52 minutes pour la télévision, donc ça a été diffusé. Et on pensait que ça créerait un peu de d'émotion, enfin qu'il y aurait quelque chose autour de ce film. Et en fait, non, ça l'a pas fait. D'autant que il y avait un journal qui était vraiment qui présentait des éditoriaux absolument mensongers sur le rond-point, mensongers, ordurier. Et on s'est dit que ce journal allait réagir à la diffusion du film. Et en fait, le journal a fermé, faute de financement. Ce journal a disparu. Donc le film est passé comme ça et on n'a pas eu spécialement de retour. Et ensuite, je suis allée présenter le film en octobre dernier à La Réunion. Le film a fait l'ouverture d'un festival. On était à Saint-Denis, qui est la principale ville de La Réunion. C'était en plein air, avec la plupart des protagonistes, enfin une grande partie des protagonistes du film. Il y a eu du monde, mais ça n'a pas créé le ce qu'on aurait pu imaginer que ça crée, parce que le rond-point, il est quand même super important pour l'île. Il est très soutenu, c'est un lieu extrêmement militant, c'est un lieu très politique, de conscientisation politique. Et finalement, ça a été un peu décevant, je trouve, dans la réception, moi.
Oui, je pense, juste pour terminer, je pense qu'il y a eu aussi, ce collectif sur ce rond-point, passé 5 ans sur le rond-point, il y a une forme d'épuisement, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, le rond-point a eu beaucoup d'évolutions, et je pense qu'à un moment, la population, il y a eu des moments très forts où l'actualité du rond-point était très présente dans les médias réunionnais et tout, et quand le film est sorti, c'est cette temporalité du cinéma. Voilà, on a tourné pendant 3 ans, puis après il y a eu un an de montage, de post-production. Et quand le film est sorti, finalement, la tension en un mot, hein, autour du rond-point était beaucoup moins grande. Et le fait que le GIR aussi, ce journal, l'avait fermé avant qu'on diffuse, bon voilà, ça a fait. Et je pense que les gens, le film a fait moins réagir qu'il aurait pu faire réagir si on l'avait sorti plus tôt, en fait.
Et puis peut-être que c'était plus un public convaincu qui est venu voir le film. Parce que dans cette expérimentation de souveraineté alimentaire, de reprise de la terre, de démocratie, d'élaboration d'un discours anticolonial et décolonial à La Réunion, cette expérience-là, elle a dérangé. Et il y a beaucoup de réunionnais, de réunionnaises qui n'ont pas envie de s'entendre dire ça, ou qui n'ont pas envie d'être confrontées à ce discours-là. Parce que là, la Réunion aujourd'hui a atteint un niveau de consommation très élevé, qui est presque effréné. Il y a énormément de centres commerciaux. On a vu se bâtir en 10 ans 5 centres commerciaux sur 20 km, par exemple. Il y a un problème de véhicules. Il y a énormément de véhicules, de très gros véhicules, de véhicules neufs. Ça crée des problèmes d'embouteillage. Et pour résoudre les problèmes d'embouteillage, on a créé des nouvelles routes. Ben voilà, il y a ce truc-là qui est un peu effréné. Et cette alternative du rond-point vient peut-être déranger ce mode de vie. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, la réception du film, ça a aussi pas intéressé. Il y a tous ces éléments, je pense.
Moi, je voudrais limiter la question. Le micro, parce qu'on est en direct et il faut dans le
temps. Et je me posais la question de savoir si le film n'aurait pas été, disons, plus visionné s'il avait été tourné par un autochtone et pas par des oreilles.
C'est possible.
C'est la question que je me pose. Est-ce que les Réunionnais ne sont pas dérangés par le fait qu'on se penche sur leurs conditions, mais à partir de la métropole ?
C'est possible. Alors, à partir de la métropole, déjà, nous, on ne dit jamais métropole. Parce que dire métropole, ça veut dire qu'on cautionne la situation coloniale. Donc on parle d'hexagone, de France hexagonale.
D'accord.
On a vécu 30 ans à La Réunion pour Jean-Marie, 20 ans pour moi. On a énormément fréquenté les milieux militants identitaires. Donc ça, c'était notre légitimité. La deuxième légitimité, c'est qu'ils nous ont fait confiance. Ils auraient pu dire non, vous êtes oreilles, on ne veut pas de votre regard. Ils nous ont fait confiance. Et on a vraiment pris cette confiance comme un honneur, en fait. On leur a demandé, on n'a pas fait les choses, on n'avait pas un rapport de prédation en allant filmer, non. On a co-construit le film, on a participé à la vie sur le rond-point, on a participé aux luttes, on s'y est engagé financièrement, on s'y est engagé physiquement. Et après, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que on a toujours eu ça en tête, nous on est oreilles, on fait un film sur une expérimentation à La Réunion, et en même temps dans le rond-point il y a des oreilles aussi, donc c'est pas un endroit qui exclut les oreilles, il y a cette diversité là, il y a des oreilles, et après sur nos vies ça a eu un impact. Moi j'ai eu envie de quitter La Réunion parce que je voulais plus bénéficier de ce système là. Et que il y a eu tout un processus de déconstruction qui a été commencé pour moi avant le film, qui s'est poursuivi pendant le film. Et à un moment, je me suis plus du tout sentie légitime. Et je voulais plus être à La Réunion en tant que oreille. Donc ça a contribué à mon désir de quitter La Réunion. Et là, on arrive dans une zone rurale qui est au nord-est du Lot. C'est très rural, c'est aux confins de la Corrèze, du Cantal et du Lot. Et on arrive avec notre capital culturel, notre capital social. Et on se confronte à la même chose en étant néo-ruraux, quoi, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette... cette question de la légitimité? Ou alors on va peut-être se noyer dans l'anonymat d'une grande ville, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question, elle est vraiment en suspens et elle est légitime.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, nous aussi, hein, nous habitions à Toulouse, nous sommes partis dans le Lot, et comme vous, nous nous sommes confrontés à la ruralité pour laquelle nous travaillons beaucoup, avec des associations, mais nous ne serons jamais du pays, jamais. Ils acceptent qu'on les aide, mais il est bien entendu que nous n'aurons jamais leur statut. Donc, c'est pas qu'ils nous refusent, c'est que nous sommes différents. Notre culture est différente, nos attentes sont différentes. Et donc, on ne peut pas vraiment discuter sur le même plan. C'est difficile.
Alors, moi, excusez-moi, mais je n'ai pas tout à fait le même point de vue, ni de Cécile, ni de ce que vous venez de dire. Hein. Alors, moi, déjà, je suis né dans une zone rurale. Hein. Je suis né en Normandie et je suis né déjà à Mantes-la-Jolie, alors qui est une ville, si vous connaissez un peu, il y a le Val-Fouré, c'est une ville très, très urbaine et avec une forte présence d'immigration. Mais en même temps, j'ai vécu mon enfance dans un tout petit village à une vingtaine de kilomètres de Mantes-la-Jolie. Donc je viens d'un milieu rural. Et moi, je suis parti 30 ans à La Réunion et c'est sûr que à cet endroit là où j'ai grandi, il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, mais qui ne sont pas originaires du lieu. Moi, je suis parti 30 ans. Quand je reviens, les gens me disent « Ah tiens, Jean-Marie, salut, je suis du coin, en fait. » Alors que je n'ai plus grand-chose à voir avec les gens qui vivent là. Il y a cette différence d'expérience, de vie, etc. Mais par contre, les personnes qui vivent depuis longtemps et elles qui ont intégré ce lieu, elles sont encore considérées. Je pense notamment à une personne où, quand on la désigne, on dit « Mais oui, c'est Christian, c'est le Parisien. » Alors que le gars, il vit depuis 70 ans là. Hein, c'est assez incroyable. Et moi, ça me pose beaucoup de problèmes parce que quand je me suis retrouvé, je suis plutôt internationaliste dans ma vision du monde. Et je pense que je comprends qu'il y a des notions de territoire, des gens sont installés sur un territoire depuis des générations et des générations, et qu'ils ont bien sûr un attachement à leur culture que nous, on aura du mal à rejoindre. Mais moi, je pense que c'est possible quand même de vivre ensemble. Et j'ai beaucoup de mal à me dire que il faudrait que je reste sur mon petit rocher, là. Sur mon petit rocher attaché à mon bled qui s'appelle Bennecourt et que j'aurais pas le droit d'aller ailleurs, quoi. Je suis pas d'accord avec ça, quoi. C'est si j'ai envie d'aller vivre à La Réunion, je vais vivre à La Réunion. Maintenant, c'est plus la manière dont je vais y aller. Bien sûr, si j'y vais, comme on monte dans le film, je sais pas si vous avez vu le film, mais il y a des oreilles qui arrivent, ils se disent « Ouais, c'est cool, les îles, la mer, les cocotiers, il fait beau, c'est la fête, on est sous les tropiques, mais c'est la France, c'est cool. » Ils arrivent avec leur capital économique, social, etc. Et puis finalement, ils ont une forme de mépris, ils ont une forme de manque d'intérêt des gens qui vivent là. Et ça, c'est pas une bonne attitude, me semble-t-il. Mais quand vous venez, que vous incluez dans la population et que vous participez à la vie de ce territoire et que vous posez vraiment les questions de qu'est-ce qui se passe là et qu'il y a un vrai échange, moi, je trouve que ça, c'est plutôt enrichissant. Et moi, je suis pour l'échange. Parce que là, on se met, c'est nous qui allons autre part. Et c'est vrai que, bon, je vais faire court et un peu grossier, on est les Blancs qui arrivons ailleurs. Mais on sait que la problématique dans l'autre sens, c'est nous, aujourd'hui en France, il y a des gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures. Et on voit ce que ça provoque dans le débat en France. Sur l'accueil, sur la cohabitation, sur retourner chez vous, que certaines personnes tiennent comme discours. Et moi, je suis contre cette vision du monde. C'est pas chacun chez soi. Et donc, ok, on va arriver sur des territoires, que ce soit dans le Lot ou à La Réunion, ou ailleurs. Ça va pas être simple. La rencontre est pas toujours évidente. On vient bousculer des choses. Il faut prendre conscience que nous, on arrive peut-être avec un capital, par exemple, économique. On va faire monter les prix des maisons parce qu'on arrive dans le Lot, nous on a un pouvoir économique, un pouvoir d'achat qui permet de payer des maisons d'un certain niveau et les locaux vont plus pouvoir acheter de maisons. Il faut avoir conscience de ça et réfléchir comment on règle ces problèmes-là. Mais pas s'interdire d'y aller parce que soi-disant, on n'arriverait pas à se rencontrer, c'est pas possible et puis on fout la merde partout. Et puis non, je pense qu'il y a moyen quand même de se rencontrer et je trouve que la vie même, c'est les rencontres qui sont enrichissantes. Moi, vraiment, aller à La Réunion, ça m'a fait grandir, ça m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et si je n'avais pas été à La Réunion, et ensuite autour, j'ai aussi habité à Madagascar et tout, je ne serais pas la personne que je suis. Et je pense que je serais resté enfermé sur... si j'avais vécu toute ma vie à Bennecourt, ça aurait été très limitatif. Ouais.
Moi, je voulais intervenir sur ce débat intéressant d'origine, etc. et tout. Je pense que la grosse différence, tu l'as un peu évoqué en disant des différences économiques, ce sont des différences de classe. Ce sont des différences évidentes.
les colons arrivent, même le petit blanc qui se paye des vacances à La Réunion, il a le billet aller-retour. Le Réunionnais qui vit ici, c'est pas évident qu'il ait le billet aller-retour. Et je crois que ça, pour le dépasser, c'est la société capitaliste qu'il faut dépasser. Je veux dire que dans ce monde-là, on sera toujours ce qu'on est. On est, on a des privilèges, on a du fric. Il faut le reconnaître, même si on est le plus pauvre dans les friqués, on est toujours plus friqué que les autres. Et ça, je crois que ce rapport de classe, qui est souvent mis de côté, qui n'est pas trop à la mode, etc., tout est beau, on s'aime, on va faire des projets communs, etc. Non, ce rapport de classe existe, et tant qu'il existera, ça empêchera. On est des paternalistes avec tous les migrants qu'on aide, parce qu'on a les moyens, parce qu'on est du pays, etc. Et quand tu dis, en effet, La Réunion t'a apporté, en effet, partout où on va, on a des gains, on a des bénéfices, ça nous rapporte quelque chose. Par contre, c'est pas la vérité pour tous. Et même dans les milieux ruraux, c'est pareil. Même s'ils ont de l'argent, même s'ils ont des terres, il y a des paysans qui ont des moyens, culturellement, socialement, etc., il y a vraiment des rapports de classe. Et on est dans un système totalement inégalitaire de profitation, comme il disait. Et c'est ça qu'il faut casser absolument. On peut se faire leurrer qu'on s'aime bien et qu'on peut s'entendre, mais tant que ça ne sera pas cassé, ça existera, à mon avis.
Et en même temps, pour le casser, il faut aussi se rencontrer aussi. Il faut prendre conscience, parce que comme vous venez de dire, ces rapports de classe, on a tendance à les mettre sous le tapis de ces dernières décennies, de dire ça n'existe pas, il n'y a plus de rapports de classe, etc. Et c'est en se rencontrant, en allant partager l'expérience de gens dans le Lot ou à La Réunion. Moi, avant d'aller à La Réunion, la problématique de la colonisation, de la décolonisation, je suis un petit Français qui a été à l'école publique, on m'a dit l'esprit civilisatrice de la France, les DOM, c'est plus des colonies, c'est des départements français. Et il m'a fallu plusieurs années en vivant à La Réunion pour prendre conscience qu'en fait, à La Réunion, c'était toujours une colonie, qu'il y avait toujours un phénomène de classe qui était très puissant, que je, moi, en tant que blanc, je bénéficiais d'un système de privilèges. Je ne m'en rendais même pas compte en arrivant, et il m'a fallu des années pour m'en rendre compte. Et c'est si j'y avais pas été, j'aurais toujours cru que moi, ben oui, La Réunion, c'est la France, il n'y a pas de souci, tout va bien, il n'y a pas de problème de classe, comme vous venez de le dire. Et ce partage d'expérience, si on joue le jeu de la confrontation et de la rencontre, elle nous enrichit et elle permet de prendre conscience. Après, on est d'accord qu'il y a un système politique qui est très large et qui maintient ces luttes de classe. Et qui, pour l'instant, joue de ça et nous divise parce qu'on est chacun avec nos petits avantages à être contre l'autre, en fait.
Mais ça, c'est en train de bouger aussi. Parce que les luttes intersectionnelles sont en train de se fédérer, parfois. Parce qu'on réfléchit en termes de classe, de race, de genre. Et je trouve ça plutôt... moi, ça me rend plutôt optimiste. Je pense que les choses, elles sont en train de bouger. Alors, elles sont peut-être en train de bouger à la marge, mais elles sont en train de bouger.
Je trouve que ça se dilue, que ça s'éparpille et que ça s'individualise.
Sujet sur lequel je voulais revenir aussi dans le film. Donc le but initial, c'était quand même qu'ils arrivent à trouver un terrain pour démontrer, pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire, et ils n'ont jamais pu acheter ce terrain. Alors on leur proposait des petits terrains dont ils ne voulaient pas, puisque ces terrains n'avaient pas la superficie voulue. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu, par exemple, prendre plusieurs petits terrains pour réaliser leur projet et peut-être plus tard, après avoir démontré ce qu'ils faisaient et après avoir un peu plus d'argent, gagner d'autres terrains plus importants? Parce que j'ai l'impression que les grands terrains, je me trompe peut-être, hein, je ne connais pas le problème. Est-ce que les grands terrains, s'ils avaient été cultivés, n'aurait pas été une concurrence pour tout ce qui est commerce à La Réunion? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les tomates, on ne les aurait peut-être pas vendues 10 euros le kilo, mais 2 ou 3 euros. Et pour tous les puissants de l'île, ça aurait peut-être représenté un manque à gagner à échéance. Je pose des questions, je ne sais pas.
Je pense qu'ils n'auraient pas cultivé des tomates. déjà. Je pense qu'ils auraient cultivé tous ces légumes racines qui sont adaptés au territoire de la Réunion et qui seraient revenus sur une agriculture vivrière traditionnelle. Et je pense pas que ça aurait fait concurrence parce qu'il y a très peu de maraîchers en bio à la Réunion et ils se connaissent tous et ils sont tous solidaires. Après, il y avait des tensions quand même sur le moyen de s'installer sur un terrain, et ça c'était vraiment intéressant parce que ça pose la question de est-ce qu'on y va en marron illégalement, est-ce qu'on s'approprie un terrain, on se réapproprie, c'est la question de la reprise de la terre anarchiste en fait, hein. On reprend des choses qui sont censées, qu'on est censé partager, surtout dans un territoire. À fonctionnement colonial, ou est-ce que on s'inscrit dans quelque chose qui est plus petit bourgeois, on achète, on loue, et ça c'était vraiment les questions qui se posaient par rapport au terrain. Et ce qui nous a beaucoup touché nous pendant les 3 ans qu'on les a suivis, c'est que pour beaucoup il y a eu un apprentissage politique. Le rond-point a eu ce rôle-là d'apprentissage politique ensemble et de conscientisation collective. Et donc je pense qu'à un moment, moi ce qui m'a aussi touchée, c'est qu'à un moment, ils étaient quasiment prêts à aller occuper un terrain de 10 hectares. Et ils ne l'ont pas fait. Et je pense que c'est ce qui a contribué à fragiliser le mouvement. Parce que certains étaient vraiment, ils étaient très motivés, le Rasta par exemple, Ludo, lui il cherchait tout le temps des petits terrains et il était sur cette notion d'archipel, ben, on pourrait prendre un terrain ici, s'installer là, un terrain là, tant pis si on se fait virer parce que de toute façon on a notre terrain, on pourrait archipéliser comme ça notre expérience. Et puis il y avait quand même l'idée de rester, de former une communauté, avec un lieu militant qui idéalement serait resté au rond-point, parce que le rond-point est connu pour être un lieu militant, mais en même temps on aurait pu faire un lieu militant sur ces 10 hectares, et puis installer un village, avoir bien séparé le côté vie privée, et sortir de la promiscuité du rond-point, donc mettre nos cabanes un peu éloignées les unes des autres, faire une école, un atelier, recevoir... des scolaires par exemple, donc ils avaient ce projet qui était vraiment ambitieux et qui aurait justifié de s'installer sur 10 hectares. Et je pense qu'à un moment, ils n'ont pas eu le... Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, j'en sais rien. Mais je pense que c'est ce qui a contribué à fragiliser le groupe.
Oui, puis aussi dans votre question, je trouve c'est qu'eux, ils ont... une vision de ce que doit être la Réunion qui est disruptive, on va dire, si on emploie un terme actuel. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rester dans ce système, ils l'appellent Babylone. Et donc leur proposition est une proposition de révolutionnaire, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas de ce modèle de société, de consommation à la Réunion, d'importation, de colonisation. C'est-à-dire c'est Paris qui, en gros, dit ce qu'on doit faire à la Réunion. Et ce que disait Cécile, ce n'est pas des tomates qui cultiveraient. Pourquoi ? Parce que le système colonial, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a les gens de l'INRA qui arrivent, ils viennent d'un endroit tempéré, la France, l'Europe, et puis c'est eux les ingénieurs qui viennent expliquer aux Réunionnais qui vivent là depuis des siècles, qui savent planter, hein, à La Réunion ils savent planter, il n'y a pas de souci, dans un milieu tropical. Ils sont arrivés, ils leur ont dit non, mais aussi on est en Europe, on va vous expliquer comment on fait pour planter des légumes. Et puis ils leur ont donné des tomates, des courgettes, des aubergines, bon, tout ce qu'on a ici. Et puis, à La Réunion, c'est pas ça, les légumes. Dans un milieu tropical, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de... C'est d'autres légumes. Mais sauf que là, on voit l'action de un peu à la marge, vous voyez, d'une action coloniale. C'est, je vais venir vous expliquer, dans votre pays, comment vous devez cultiver, qu'est-ce que vous devez cultiver, qu'est-ce que vous devez manger. Parce que pareil, ben, finalement, après, les Réunionnais se retrouvent avec des tomates. On dit le curry, on en fait tout un truc. Et d'ailleurs, ça, il y aurait presque un film à faire. Hein. Pourquoi les Réunionnais nous disent le curry poulet, le rougail saucisse, le pied de cochon, etc. Et le riz qui est à la base de l'alimentaire soi-disant réunionnais, mais c'est une foutaise totale. Le riz, vous savez c'est quoi? Comment il est arrivé à La Réunion? Le riz, il est arrivé à La Réunion parce qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France a repris ses colonies, notamment l'Indochine, il y avait une surproduction de riz. Et comme il y avait la famine, enfin un début de famine à La Réunion, ils ont pris du riz de l'Indochine, du Vietnam en l'occurrence, et ils l'ont amené à La Réunion. Et là, d'un seul coup, les Réunionnais... Il y aura eu une surproduction de patates en France, il leur aura amené des patates. Et les Réunionnais, ils mangeraient des patates. Ben non, ils mangent du riz. Et c'est complètement construit par l'État colonial. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la tête du collectif réunionnais, c'est ils sont persuadés que leur gastronomie, c'est la base du riz, alors que ce n'est absolument pas ça. La base de l'alimentation réunionnaise historique, c'est le manioc, c'est les racines, les patates douces, etc. Ça n'a rien à voir avec le riz. Le riz à La Réunion, c'est un territoire qui est montagneux, qui est une toute petite surface. Vous ne pouvez pas décider de manger du riz quand vous vivez à La Réunion si vous voulez le produire localement. Donc vous voyez, il y a toute cette construction qui est complètement... Et eux, ils veulent changer ce système. Le système de la société de consommation avec une monoculture qui est la canne qu'on va exporter et on va tout importer pour manger, eux, ils sont contre ce système. Ils sont contre le système que ce soit la France qui possède La Réunion. Ils sont indépendantistes, hein, disons les choses clairement. Alors, comme c'est un collectif, tout le monde n'est pas indépendantiste. Donc il y a des débats, est-ce que c'est l'autonomie, etc. Mais donc, leur logique, c'est de changer le système. Et quand on est dans une situation comme La Réunion, face à un État colonial qui est hyper puissant, comment on fait? Eux, ils ont décidé, plutôt que de seulement lutter par des luttes militantes qu'on connaît tous, hein, les grèves, etc., on va le faire par l'expérience aussi. D'abord, sur un rond-point, on démontre qu'on peut vivre d'une autre manière. Et leur objectif, c'était ensuite d'avoir sur un plus grand terrain, de démontrer qu'on pouvait vivre autrement, qu'on arrête de bouffer des tomates et qu'on revienne aux légumes, aux cultures traditionnelles, qu'on arrête d'être dans une logique d'aller au supermarché et d'attendre que tout vienne de l'extérieur, mais qu'on le fasse ensemble. Planter pour manger, donner la main, comme on dit à La Réunion. Bon, ils ont plein de concepts. Hein. Et de revenir à une culture, alors à la fois qui existait à La Réunion, avant, au niveau de la culture, j'entends, agricole, hein, mais en même temps, la réinventer avec la situation d'aujourd'hui. Et peut-être que aussi, si ce terrain, ils n'ont pas pu l'avoir, c'est que dans la société réunionnaise, il y a un vrai débat sur cette notion d'indépendance, ça veut dire lâcher la France. Ça veut dire aller vers quelque chose d'un peu d'inconnu quand même. Et les expériences autour de La Réunion, que ce soit Maurice, l'île Maurice ou Madagascar, c'est des expériences qui peuvent poser question aux Réunionnais de se dire « merde, ils galèrent quand même ». Alors Maurice, il s'en sort plus ou moins, mais ils voient l'organisation de la société mauricienne, ils ont peut-être pas envie, finalement c'est pas beaucoup mieux que le modèle colonial, hein. Et puis la situation à Madagascar, qui est quand même, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, il y a une corruption qui est infernale, une élite qui a pris le pouvoir, ils se disent, le moindre mal. Et ces discours traversent la société réunionnaise, et ce collectif-là, lui, il était plus déterminé en se disant, montrons que par l'expérience, on peut faire des choses. Mais finalement, même eux, ils ont une sorte de doute. Et passer à l'étape suivante, ils n'ont pas réussi, mais aussi parce que certainement la société réunionnaise leur a mis une pression sur... ça serait chiant qu'ils démontrent que c'est possible. Enfin, vous voyez, nous, c'est comme ici. Hein. Les expériences de, par exemple, d'autogestion d'entreprise, on n'a pas besoin de patron, on peut gérer. Le système n'aime pas du tout que vous démontriez ça, parce que d'un seul coup, ça ouvre des brèches. Et voilà, ouais.
Peut-être.
Dans les projets.
Oui, voilà, c'était ma dernière question. Du coup, quels sont vos futurs projets destinés?
Moi, j'aimerais bien. J'ai commencé à écrire un documentaire, c'est toujours du documentaire, sur la question de la sécurité alimentaire dans le territoire dans lequel on vit, le nord-est du Lot. On a l'impression qu'il y a une abondance de fruits, de légumes, avec les marchés en plein air, enfin, voilà, les jardins potagers, des gens. Et puis, en fait, non, il n'y a pas du tout de... Enfin, la sécurité alimentaire n'est pas du tout assurée. Et voilà, donc j'avais envie de... d'aller fouiller un peu cette question avec les gens qui cultivent en bio, les maraîchers, les paysans boulangers, les éleveurs aussi. Et puis, donc j'ai déposé une demande d'aide à l'écriture à la région Occitanie. J'attends la réponse pour septembre. Je l'ai déposé fin avril et du coup le projet, il est en train de... il continue à travailler et il est en train de... prendre un autre angle, et j'aimerais bien questionner, parce que ça me questionne aussi, et c'est ce que vous souleviez tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on va chercher quand on s'installe dans une zone rurale, qu'est-ce qu'on va, pourquoi on s'y installe, pourquoi on fait ce choix de vie, qu'est-ce que éventuellement on fuit, voilà, c'est ça. Et enfin, moi, c'était un peu la question de est-ce que ce choix, il est vraiment, est-ce que c'est un vrai choix, ou est-ce que c'est un choix parce qu'on subit quelque chose ailleurs, et du coup ça m'amène à me questionner sur les peurs, en fait. Alors le fil, il n'est pas forcément évident, mais une fois qu'on est installé dans notre campagne, ben finalement, qu'est-ce qui nous fait peur, et si on a peur d'un effondrement, ou si on a peur de d'un effondrement, qu'il soit écologique, économique, etc. Quelles solutions on met en œuvre pour faire avec? Voilà, c'est un peu ça, que c'est pas encore très très clair, mais voilà, c'est en train de prendre ce tour-là, ce chemin-là.
Alors moi, le même sujet m'intéresse un peu, celui qu'on a échangé tout à l'heure, quand vous disiez quand on vient s'installer quelque part, et la lutte de classe. Et ça, c'est un sujet quand même qui m'intéresse beaucoup, hein, ce qu'on appelle les néo-ruraux. Et c'est vrai que quand on était à La Réunion, l'un des dangers, c'est qu'on peut se retrouver entre oreilles, hein, vous voyez, entre expats, entre oreilles, puis finalement un peu être éloigné des gens sur le territoire où on est. Et finalement, on se rend compte que dans le Lot, où... on pourrait dire, bon, on est revenu à nos origines, mais en fait, parce que Cécile est originaire de ce coin, quand même, et en partie. Mais en fait, non, la question de la confrontation et des différences de classe, elle se pose même sur ces territoires-là. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Et donc, je ne sais pas encore où ça va me mener, mais en tout cas... je suis en train de revivre cette expérience d'être sur un territoire où il y a une confrontation avec des gens qu'on a du mal à rencontrer, on a du mal à faire des choses ensemble, et interroger ça. Comment on fait pour dépasser les classes sociales et refaire des choses ensemble? Donc ça, c'est un sujet. Et puis après, j'ai un sujet beaucoup plus personnel qui me trotte dans la tête depuis des années et des années. Et puis là, le fait de revenir ici en France... ça rejaillit et je retravaille dessus. C'est que j'ai un grand-père qui certainement a été collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une histoire familiale, il y a une sorte de légende familiale, bon, comme quoi il était... C'est lui qui avait la coopérative de la ville où il vivait. Hein. Et puis au moment de la libération, les Allemands l'ont... Il est parti avec les Allemands pour conduire des camions quand il fuyait le... Il y avait la débâcle des Allemands, et il a disparu, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Dans la légende familiale, c'est qu'il aurait été assassiné parce qu'il aurait soi-disant essayé de mettre du sable dans l'essence d'un camion. Mais en fait, on n'a aucune preuve de ça. Et je m'interroge sur ce qu'est-ce qu'il y a derrière dans la famille. Et ça, moi, ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Mais qui est en sous, en sous le tapis, il n'y a rien de clair. Et je réinterroge ça, donc je suis en train de mener une enquête autour de ma famille, de mes tantes, de mes oncles, de mes cousins, de mes frères et sœurs, de ma mère, pour questionner ce non-dit, en fait, et cette légende familiale qui a été construite, et qu'est-ce que ça crée en nous, quoi. Voilà.
En France, il y avait des résistants, hein.
Merci. Merci pour beaucoup. Et nous allons terminer ce café ciné.
Merci.
Merci.
Merci à vous.